continue.
Goodbye, Rick. God bless you.
Radio G 101.5 FM.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h et c'est l'heure de la case de Seb. Attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Sur le 101.5 de Radio G, c'est le moment de retrouver votre dose quotidienne de 9e art, BD, franco-belge, comics ou manga. C'est bien entendu la case de Seb. Pendant une heure, ensemble, nous allons parler du meilleur du 9e art et par le truchement des ondes radiophoniques, lancez les plus belles images directement dans votre cerveau. Pour cette dernière émission de l'année, j'ai décidé de vous faire un florilège de lectures, une pile globale de mes dernières lectures, sans pour autant essayer de faire de pause musicale. On va voir ce que ça peut donner, en espérant de vous donner plein d'idées de lectures pour cet été et qu'on se retrouve directement l'année prochaine, en septembre, pour une nouvelle case de Seb, nouvelle formule, avec pas mal de modifications qui, j'espère, vous plairont. Je commence ce soir avec deux albums publiés aux éditions Delcourt dans la série, dans la collection Patakès. Le premier, c'est Open Bar, tome 2 de Fab Caro. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Fab Caro, c'est quelqu'un qui a su manier en quelques cases l'absurde. Quelqu'un qui s'est fait connaître avec Et si l'amour s'était aimé, qui s'est fait encore plus connaître, mais c'est quelqu'un qui aime bien vraiment travailler. Le côté complètement absurde, puisque le trait du dessin, c'est pas vraiment ça qui va vous attirer dans la BD, mais c'est vraiment la truculence des gags, le côté complètement absurde et outrancier de certains gags, qui va vraiment vous faire réfléchir sur votre quotidien et sur l'actualité qui vous entoure. Là c'est une itération, c'est le tome 2 en fait de la série Open Bar qu'il a commencé il y a quelques temps déjà et qui fait vraiment un retour sur l'actualité de manière un petit peu florilège, un peu comme on pourrait avoir autour d'un comptoir discuter et refaire le monde dans un bar. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Il y a quelques blagues en fait. Le papa qui fait un devoir de maths avec sa fille et au détour du devoir de maths, le papa lit la consigne à sa fille. Alors, voyons un peu ce problème. Sachant que Paul a 4 billes de plus que Pierre a le double de billes de Sophie, que Sophie a la différence de billes entre Pierre et Paul, et que Ray Makram Dayoub a 2 billes de moins que Sophie. Selon toi, lequel des quatre va rencontrer le plus de difficultés à être régularisé? Et là, il fait semblant de réfléchir. Alors, voyons, voilà. Vous voyez, c'est le genre de blague qui peut amener, qui est complètement absurde, hein, puisque c'est, si vous avez un de vos enfants qui, dans ses devoirs de vacances, a ce genre d'intitulé, appelez tout de suite le recteur d'académie, c'est qu'il y a un problème avec votre école. Mais ça peut faire réfléchir sur plein de points, notamment dû à l'immigration et à ce genre de choses. Donc c'est ça gratte un petit peu et c'est vraiment sympa. Fab Caro, Open Bar, volume 2 aux éditions Patakès, c'est chez Delcourt et n'hésitez pas, hein, c'est vraiment sympa. On continue avec un autre album aux éditions Delcourt, dans la collection Patakès. Il s'agit de Mortel de Marc Dubuisson et Thierry Martin. C'est un petit bouquin format carré, d'un centimètre à peu près d'épaisseur. Au dos, on nous explique qu'il n'y a pas de routine avec la mort. Elle est une artiste qui renouvelle tous les jours son art. Elle s'applique à surprendre son public à chaque prestation, car pour elle, rien ne serait pire que de s'ennuyer à mourir. Si avec ça vous n'aviez pas deviné que le personnage principal c'était la mort elle-même, la mort dans son travail qui va aller collecter des âmes, quitte à être l'initiatrice du moment qui fait que cette âme va passer de vie à trépas. C'est un petit format puisque il doit faire une dizaine de centimètres grand maximum, je pourrais contrôler. C'est un format à peine carré de 17 cm sur 15 cm et qui renferme un gaufrier de 4 cases sur 4, enfin de 2 cases sur 2 cases, un petit gaufrier de 4 cases. Donc ce sont des gags parfois absurdes, parfois des gags en une case, c'est beaucoup plus rare. Et ce sont des choses à chaque fois sur la mort. Ce sont des gags globalement très bêtes. Ce sont des gags qui, moi, m'ont beaucoup fait rire, puisque j'aime bien ce côté très acide, très humour noir, qui est vraiment très efficace. On est sur un dessin plutôt humoristique, hein, ne nous le cachons pas, c'est le but recherché. Et c'est vraiment, vraiment hyper agréable à picorer de manière assez... C'est le type de livre sans être péjoratif qui peut facilement se mettre aux toilettes et qui va vraiment fonctionner de manière assez efficace. Pour vous donner un gag ou deux, on a un des gags en une case où il y a un chasseur qui est en train de faire ses besoins derrière un buisson et puis il y a la mort juste en face qui a un petit tapot et puis qui fait coin 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 et juste derrière on a un autre chasseur qui arrive avec un fusil chargé et qui à mon avis va faire passer de vie à trépas son comparse aux intestins vides. Il y a encore plein de petites choses très agréables, c'est vraiment à picorer. Et le gros avantage de cet album, que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'en quatre cases, il arrive quand même à mettre un engagement, que ce soit politique, que ce soit humanitaire ou même écologique. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, à la base, est quand même assez difficile de pouvoir montrer ce petit engagement dans ce type de petit... de petits formats, et c'est vraiment super agréable d'avoir ce genre de choses. Je prends par exemple des gags où la mort débarque dans une arène de corrida et le toréador est en face la vache, voit la mort et le toréador voit la mort et la mort donne sa faux au taureau qui va décapiter le toréador. Voilà. Bon, ça pourrait être juste un gag comme ça, mais ça montre quand même que ça pousse un petit peu plus loin la réflexion et que vraiment faut voilà, il y a une réflexion un petit peu plus poussée et vraiment vraiment agréable. À la fin du tome, on a quelques pages où on voit la mort dans son quotidien tout le long de l'album, on la voit dans son travail, là on la voit dans son quotidien avec ses enfants dont je vous laisserai découvrir les noms qui sont vraiment, vraiment efficaces avec des petits gags qui poussent encore un petit peu plus l'ironie et le ton acide d'humour noir qui se révèle, par exemple la mort qui voit un paquet de clopes dans la poche de sa fille et fait qu'est-ce que c'est que ça, et sa fille a fait bah non c'est pas à moi, je les donne à mes copines, et là la mort serre sa copine, sa fille dans ses bras et voilà, elle est très très fière en fait de sa fille qui dispatche un petit peu la mort auprès de ses copines de manière quotidienne. Enfin voilà, c'est un tout petit opus, c'est vraiment quelque chose qui se picore. Moi je l'ai dévoré d'une traite parce que vraiment c'est quelque chose que je recherche, mais je pense que ça peut être quelque chose à garder dans une salle d'attente ou effectivement dans vos toilettes ou même sur votre bureau. Vous en lisez une quand vous n'avez pas le moral, ça vous remet une patate d'enfer et c'est vraiment très très bon, très très drôle. Mortel, c'est de Marc Dubuisson et Thierry Martin, c'est dans la collection Patakès des éditions Delcourt. C'est sorti il y a peu et c'est vraiment vraiment très agréable à lire. N'hésitez pas, c'est vraiment très drôle. Un petit peu de jeunesse. Un petit peu de jeunesse avec Lune et Merlin, détective des Colline de Johann Trojanowski, je pense que je dois le prononcer à peu près de manière correcte, aux éditions Macaca Édition. C'est une petite BD très colorée, très funky, très colorée, vraiment orientée pour les enfants, et qui m'a beaucoup plu pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est très efficace, ça fonctionne bien. On est sur une histoire assez simple, il s'agit de Merlin qui est un jeune homme, un petit garçon qui garde des animaux, il est berger, et il vient de perdre sa chèvre, Biquette. Sauf que sa chèvre est invisible, et c'est là que il va découvrir Lune, une petite fille aux cheveux roses dont le papa est détective, et qui, bien entendu, comme son papa est détective, elle est détective elle aussi, et elle veut dire écoute, on va la retrouver ta Biquette, il n'y a pas de souci. Et puis, par un concours de circonstances, ils vont retrouver la Biquette, et le bâton de Merlin va se mettre à faire de la magie, et c'est à ce moment là qu'ils se disent, tiens, si on ouvrait une agence de détective. Merlin, il est pas à fond au départ, et très vite ça va fonctionner. Ils vont pouvoir ouvrir leur agence de détective, et il va y avoir une grande demande, et ils vont s'en aller dans des enquêtes qui sont à la fois très étranges, où le surnaturel, le fantastique fonctionne de manière très efficace, et avec un côté où l'imaginaire, on pourrait imaginer que cet album a été écrit par un enfant, puisque l'imaginaire fonctionne très très bien. On a une cohérence dans l'absurde qui marche très très bien. On a le début de l'enquête, la deuxième enquête de mémoire. Ce sont des gens qui se retrouvent avec des champignons qui poussent sur leur corps. Et du coup, il va falloir trouver l'origine de ces champignons et pourquoi ces champignons se mettent à pousser sur le corps de ces gens-là. Bon, au départ, ils ont essayé quand même de s'en accommoder, et au bout d'un moment, il faut quand même faire quelque chose. C'est un album qui fonctionne vraiment très bien. C'est des couleurs qui sont très, 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 très vives. On a l'impression que ça a été écrit et colorisé au feutre. Pour ceux qui connaissent Marie Frisson, qui devait être publié aux éditions Glénat, si je ne me trompe pas, d'Olivier Supio, c'est vraiment le même type de couleur. On a l'impression d'avoir vraiment du gros crayon feutre, et encore du crayon feutre qui est, j'imagine, du crayon peinture, qui est vraiment boosté, et c'est vraiment très coloré, c'est très beau, c'est très mignon, et ça marche vraiment très bien. Et le deuxième point pourquoi ça m'a plu, c'est que l'auteur nous présente des fiches de personnages dans son album. Et le fait que ces fiches de personnages soient présentes, c'est simplement parce qu'un jeu de rôle pour enfants qui devrait s'appeler Trouilleville devrait être publié aux éditions Macaca, l'éditeur déjà de cet album, en 2021. Et comme je suis rôliste, que je trouve extrêmement intéressant de faire découvrir le jeu de rôle aux enfants, et ben je trouve que c'est une très bonne initiative, et du coup je vais surveiller cette sortie Trouilleville en 2021. J'espère que ce ne sera pas annulé, parce que vraiment c'est une très très bonne idée, et si le jeu de rôle est aussi intéressant et inventif que l'est l'album en question, ça ne pourrait être qu'une réussite, ce que je souhaite de tout cœur. Je vous redonne les références. Lune et Merlin, Détective des Collines, c'est de Johann Trojanowski, et c'est aux éditions Macaca.
www.radio-g.fr.
Partons du côté des États-Unis maintenant. Alors, pas pour l'instant avec du comics, mais avec Doggy Bags, la collection dirigée par Run aux éditions Ankama, puisque le dernier recueil s'appelle Made in America. Cette série d'anthologie a pour particularité de garder une thématique et de développer plusieurs histoires autour de cette thématique, des histoires en bande dessinée, mais également de courts textes où beaucoup de choses qui peuvent s'argumenter autour, de façon page de publicité qu'on pouvait retrouver dans les magazines à l'ancienne, un peu pulp, un peu, je sais pas si vous voyez les Weird Tales, où il y avait ces espèces de grandes pages avec de la publicité subventionnée pour des savons ou des choses comme ça. Là, ils les détournent de façon à avoir des publicités qui collent au thème de manière assez, assez radicale. Là, Made in America, c'est un constat des États-Unis de manière assez radicale et perturbantes. De Guy Bags, ce sont avant tout des histoires, des recueils d'histoires un petit peu trash, puisqu'il ne se cache de rien, et ils vont arriver à faire des choses qui sont hyper hyper intéressantes. Là, on a trois histoires vraiment orientées sur la mythologie américaine. La première histoire, c'est une chasse à l'homme. Ce sont des rednecks, je les appelais comme ça, qui se mettent à pourchasser un jeune homme noir, et ils vont se retrouver face à une créature qui les dépasse et qui va je vous laisserai découvrir ce qui va se passer, puisque ce sont quand même des histoires courtes. La deuxième, qui s'appelle Conspiracism, c'est une histoire qui va aborder le thème de la conspiration et de la mythologie qui peut fonctionner autour de cette thématique conspirationniste, et qui va vraiment arriver à fonctionner. C'est vraiment assez agréable à lire, c'est vraiment c'est très réfléchi dans la façon de présenter, tout en étant un petit peu brut, puisque c'est vraiment l'intérêt de cette anthologie. Et la troisième, Héritage, va nous propulser dans une famille qui travaille avec le Ku Klux Klan, cette sinistre secte raciste qui connaît une résurgence, voire une nouvelle mode aux États-Unis, et qui va les mettre devant les faits accomplis et les conséquences de leurs actes. Une histoire qui est vraiment très très efficace. Les trois histoires sont confiées chacune à des dessinateurs différents. On a quelque chose de très comics, je sais pas comment l'expliquer, très sombre. Sur la première histoire, sur Manhunt. La deuxième, on a des choses beaucoup plus colorées, mais avec des personnages qui sont un petit peu plus déformés, avec des visages, des gueules, je sais pas comment l'exprimer, mais vraiment un côté très coloré, très rond, qui dénote. Et puis le dernier, on a sur un clair-obscur qui est vraiment assez perturbant, puisqu'on a des ancrages qui sont très forts, on a une couleur qui va pas être vive, au contraire, qui va atténuer un petit peu toute la violence qu'on peut y trouver. Et ça fait trois histoires qui sont vraiment très impactantes, qui sont vraiment très intéressantes, et du coup faut vraiment le lire, parce que c'est si vous connaissez pas cette série là hein, cette collection, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Un petit peu comme sur Mortel, vous pouvez prendre une fois de temps en temps une thématique, vous prenez un bouquin, vous lisez une histoire et puis vous le remettez après. Effectivement, il y a une cohérence quand vous fonctionnez, quand vous allez lire les trois histoires d'un coup, mais n'hésitez pas à le lire de manière un petit peu épisodique, et ça fonctionne encore une fois très très bien. Je redonne les références, c'est Dougie Bags, c'est le tome 15, c'est doit être le premier de la saison 2, il y a trois histoires dedans, Manhunt, Conspiracisme et Héritage. C'est de Club Car, Run, Chestnut et Gasparuto, excusez-moi, et c'est vraiment très très efficace, ça fonctionne super bien. Et voilà, ça c'est typiquement le bouquin que vous pouvez emmener dans votre sac si vous n'avez pas peur de vous faire choper avec un bouquin où il y a un membre du Ku Klux Klan en couverture. Après, c'est l'occasion d'en discuter avec les personnes qui vont vous interpeller sur le sujet. C'est vraiment super cool.
America, America, it's wonderful. We're all living in America, America, it's wonderful. We're all living in America, America, it's wonderful. please.
Hey, we've had a problem here.
On continue aux États-Unis avec Hope, un album qui est sorti fin mai, qui est scénarisé par Guy Adams et dessiné par Jimmy Broxton. Comment expliquer Hope ? Vous imaginez un Los Angeles d'après-guerre où la magie existe, où la magie a des conséquences très intéressantes. Il a un détective privé qui s'appelle Mallory Hope qui va se retrouver à enquêter sur un kidnapping qui va lui rappeler des événements de son propre passé. Ses particularités font que Hope est capable de manier une magie qui lui a déjà coûté cher par le passé, et il va se mettre à cœur de retrouver cet enfant kidnappé, parce que ça lui rappelle vraiment quelque chose de son passé, et c'est une sorte de format de rédemption. Tout dans Hope fonctionne d'après les codes du polar sombre, avec ce héros alcoolique, cette femme fatale qui vient proposer une enquête. Là, on rejoue sur ces codes, mais on va les retravailler et on va tout coller dans un écrin quasiment noir, puisque déjà l'album est en noir et blanc. On a vraiment un côté roman pulp, avec cette espèce de trait un petit peu daté, avec ces espèces d'ancrage et d'ombrage qui vont fonctionner sur les visages pour retravailler un petit peu les émotions. Le personnage a beau sourire, certaines ombres vont dessiner de manière subtile des émotions contraires, et vraiment on a toute cette ambiance. Il ne manque que un levier de jazz en fait à se mettre en fond musical pour vraiment avoir l'impression de se retrouver directement dans un film d'un film polar sombre. Je crois que c'était les polars hard-boiled, comme c'était mentionné, et c'est vraiment très très bien. On a ce héros qui est hanté à la fois par son passé, mais à la fois par une entité magique dont on sait très peu de choses, qui sont vraiment cette espèce de fantôme qui le hante et qui vraiment nous met autant les jetons qu'à lui. Et ce qui est énorme, c'est qu'on a une histoire qui est encore plus sombre que l'ambiance même qu'elle décrit. Je vous laisserai découvrir vraiment les tenants et les aboutissants de cette histoire, mais sachez que il y a très peu de chances que vous trouviez ça extrêmement drôle, puisque Los Angeles dans les années 40, c'était le cinéma, et c'était également tout ce qu'il fallait faire pour devenir une star, quitte à faire des pactes avec le malin, je ne dirais pas le diable, mais vraiment c'était des choses assez assez glauques. Je redonne les références, il s'agit de Hope de Guy Adams et Jimmy Broxton aux éditions Delcourt. Toujours du côté des États-Unis, on enchaîne avec Batman Last Night on Earth de Scott Snyder et Greg Capullo. Ce qui est génial, c'est que là, on a deux grands noms. Que ce soit Snyder qui a su redorer le blason de l'homme en noir, du plus grand détective du monde, de Batman. Et on a Greg Capullo qui est connu pour avoir donné son design et ses lettres de noblesse, son dessin de noblesse à un justicier de l'ombre, à savoir Spawn. Donc on a deux grands grands noms qui vont nous livrer une histoire assez particulière. C'est un récit complet. Je vous avoue que moi j'ai été un petit peu perdu passé l'introduction. C'est un récit qui, selon moi, est un petit peu brouillon, mais qui emmène des thématiques qu'on a rarement vues chez Batman. Je vous donne le résumé de l'introduction. Sachez que ça se modifie beaucoup par la suite. Là, on retrouve Batman. Un Batman qui se réveille dans un asile, et il va découvrir avec un effroi, avec une sorte de doute très fort et très certain, qu'il n'est en fait qu'un patient dans un asile, et que toute la mythologie créée autour de Batman, tous les ennemis, tous les antagonistes qu'il connaît, ne sont que le fruit de son imagination puisée dans les différents patients, médecins qui l'entourent et qui le soignent. Et ça ne fonctionne pas. Dans sa tête, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. Alors il va creuser, il va essayer de deviner, essayer de s'échapper de cet asile dont il est prisonnier. Alors c'est le parallèle qui est hyper intéressant, c'est qu'habituellement ce sont ses ennemis qui sont dans l'asile d'Arkham. Là c'est lui le fou et ce sont les autres, les gens bien. Et du coup, ça va. Il y a un twist très particulier dès cette introduction, et vous allez voir que ça va vous emmener sur des pistes qu'on avait rarement explorées pour Batman. Je veux pas vous spoiler, c'est pas intéressant que je vous raconte ce qui se passe après. Il faut vraiment le découvrir par soi-même. C'est un bel album, c'est un album avec des envolées en termes de dessin qui sont assez assez génial. Pour ceux qui se rappellent un petit peu sur Spawn, Capullo avait une façon de dessiner. On a l'impression parfois qu'il y a beaucoup de détails, mais qu'il y a certaines portions de dessin qui sont encore un petit peu floues. Et ça marche très très bien. On a des redesigns de personnages connus qui sont assez travaillés et cohérents. Et je vous avoue que c'était une belle surprise. Encore une fois, je le redis, c'est un petit peu fouillis. Ça nécessite de vraiment se concentrer pour avoir les tenants, les aboutissants de la trame. Il y a des ellipses qui sont un petit peu violentes parfois, mais si vous vous donnez la peine, c'est vraiment un très bel album et ça va vraiment vous emporter assez loin. Je redonne les références: Batman Last Night on Earth de Scott Snyder et Greg Capullo, et c'est publié aux éditions Urban Comics.
Radio G 101.5 FM.
Un petit tour du côté du manga maintenant avec Made in Abyss, Official Anthology, Les Incorrigibles Caverniers. Pour ceux qui ne connaissent pas Made in Abyss, c'est aux auditions Ototo. Pour ceux qui ne connaissent pas Made in Abyss, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est destinée à devenir cavernier. Les caverniers, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les caverniers, ce sont des gens qui vont aller explorer un abysse situé à côté de la ville principale où se déroule l'histoire. Et cet abysse est, on va pas dire insondable, mais on va simplement dire qu'il est extrêmement profond. Il faut juste se rappeler d'une chose, enfin il faut juste savoir une chose, c'est que cet abysse a une espèce de membrane qui va vous maintenir en bas. Descendre, c'est compliqué. Il y a des monstres, c'est haut, il y a des créatures qui ne vivent que dans cet abysse, et plus on descend, plus on se rend compte que l'univers n'a pas du tout envie que vous soyez à cet endroit-là, sauf si vous aviez eu envie de devenir un hors-d'œuvre. La particularité de cette espèce de membrane, de cet abysse, c'est que si vous essayez de remonter, eh ben, vous subissez les conséquences physiques de cette descente que vous avez amorcée. Un petit peu comme un plongeur qui tenterait de remonter trop vite, en fait. Vous avez des sas, vous avez des moyens de décompression, et ça peut aller du simple mal de tête, du simple évanouissement, à simplement, vous allez vous vider de votre sang par tous les pores de votre peau, voire pire. Imaginez déjà le niveau où vous videz de votre sang. Il y a des choses qui existent qui sont un peu pires que ça. Et c'est un univers qui est à la fois extrêmement kawaii, extrêmement mignon, puisque les personnages ont des designs qui sont très ronds. On a un côté qui est pas... C'est pas tout à fait du SD, du Super Deformed, mais ça fonctionne super bien, et c'est vraiment un côté très mignon qui est mis en parallèle avec un univers qui est quand même extrêmement violent et qui fait très peu de cadeaux. Les enfants pourraient se dire tiens, ça c'est une BD pour moi, c'est un comics pour moi, alors qu'il faut quand même avoir un certain âge pour pouvoir appréhender certaines histoires, certaines thématiques débloquées dans Made in Abyss. Mais revenons directement à cette anthologie. Là, c'est un recueil qui a été demandé. Ils ont offert la possibilité à un certain nombre d'auteurs d'écrire des histoires qui se déroulent dans l'univers de Made in Abyss en utilisant les personnages qu'ils souhaitaient. Donc on va avoir des personnages de l'univers de Made in Abyss qui vont être exploités de manière différente, soit sur une thématique humoristique, soit sur une thématique un peu plus sérieuse, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'humour là dans cette anthologie qu'on retrouve assez peu dans la partie réelle, enfin dans la série principale. Et ce qui est génial, c'est que Made in Abyss, à l'origine, la série, c'est un fanzine. C'est ce qu'on appelle, hein, j'ai perdu le nom, mais c'est vraiment, à la base, c'était un petit fanzine qui a été finalement basculé en version série réelle, et ça marche, ça marchait très bien. Et il y a des auteurs qui sont issus du fanzina qui ont eu envie de devenir auteur pro en lisant Made in Abyss et son évolution, qui sont dans cette anthologie. Et vraiment, ça donne un côté assez sympa de voir que tous ces auteurs, ils ont eu que cette série Made in Abyss a su influencer tout un tas d'auteurs qui sont eux-mêmes en passe de devenir des auteurs soit pro, soit des auteurs de fanzine qui sont déjà confirmés. Et c'est ça qui est vraiment hyper intéressant. On se retrouve avec des styles graphiques qui sont tous extrêmement différents, sans qu'ils ne cherchent absolument pas à copier le graphisme d'origine, et qui pourtant sont des graphismes très aboutis, avec des pages qui sont soit très jolies, soit des pages complètement l'opposé, je veux pas opposer une page jolie à une page qui est complètement déstructurée et complètement barrée, ou encore des petites histoires en strip pour raconter le quotidien de certains personnages de Made in Abyss entre les lignes un petit peu de la série principale. Et c'est vraiment, vraiment très sympa. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas Made in Abyss, commencez la série avec son point 1, puisque je pense que si vous n'avez pas lu Made in Abyss, l'anthologie sera quand même un petit peu compliquée à suivre. Donc allez-y, c'est vraiment très très bon. Made in Abyss, c'est aux éditions Ototo, c'est l'anthologie officielle qui vient de sortir, et la série continue. On doit être rendu à je ne sais plus combien de tomes, mais allez-y, c'est vraiment très très bien, c'est vraiment une très très belle série. Par contre, à conseiller à un public adulte.
Radio G 101.5 FM.
On continue du côté du manga avec Golden Ship de Kaori Ozaki aux éditions Delcourt Tonkam. Un manga, si vous connaissez Kaori Ozaki, vous l'avez certainement déjà entendu dans notre émission, puisque c'est elle qui fait Mermaid Prince et Our Summer Holidays, qui sont deux mangas qui avaient vraiment bien fonctionné, qui étaient des one-shots, qui exploraient les méandres de l'évolution adolescente sur des périodes charnières comme l'été, les vacances, et c'était vraiment très très sympa. Et là, Golden Ship, en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va quitter sa ville natale, qui va quitter ses amis avant d'y revenir un certain nombre d'années plus tard suite au départ de son père dans les étoiles. Et il s'était enfermé une sorte de capsule temporelle au pied du mouton doré, et il est dit que si on reste il reste si cette capsule temporelle reste pendant 7 ans et 7 mois au pied de ce mouton doré, les vœux qu'on y a enfermés risquent de se réaliser. Et du coup, l'héroïne revient quelques années après, un petit peu avant le délai fatidique, et elle va retrouver son groupe de copains qui malheureusement a pas mal changé, en fait. Elle ne s'en rend pas compte, puisque elle arrive avec sa candeur et son innocence, et elle considère qu'elle n'a que très peu changé. Et l'un de ses amis est devenu un vrai tortionnaire, l'autre est devenu une vraie lavette. Quand la jeune fille qui était avec eux, elle finit par développer une jalousie envers l'héroïne, chose qui n'est pas vraiment super cool. Et elle ne s'en rend pas compte, et elle va petit à petit découvrir que ses amis ne sont plus exactement ceux qu'ils étaient quand elle les a quittés, et que c'en est assez dommage. Et c'est vraiment très très bien. La première partie est très triste, c'est pas... non, triste c'est méchant. Elle est mélancolique et un petit peu dure, puisque si vous avez vécu une enfance ou une adolescence un petit peu dure, vous allez retrouver certainement chez un des personnages, l'un ou l'autre des personnages vous inspirera un petit peu votre propre vécu, et il est à mon avis très rare que vous ne vous identifiez pas à un seul des personnages. Graphiquement, c'est très beau, c'est très doux comme trait. C'est vraiment quelque chose d'assez agréable, et On a tous les codes du manga, on a des petits gags, on a des petites interludes qui vont fonctionner. Et vraiment, c'est très très bien, c'est très gentil, c'est super beau. Avec une thématique qui fonctionne bien, des petits rebondissements, un petit twist que je vous avoue n'a pas avoir vu arriver. Et pourtant, j'en ai vu des twists, mais là, celui-là, il fonctionne bien et ça marche. Je pense que la traduction française fait qu'on ne le sent pas venir, puisque le jeu de mots ne fonctionne pas de la même manière, certainement en anglais ou en japonais. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Ça, c'est un tome 1. Je ne sais pas combien il y a de tomes, je vous avoue que je n'ai pas vérifié. Et c'est pour la première fois la série, une série de cette autrice qui va nous faire découvrir encore les méandres de l'adolescence. Et c'est vraiment, vraiment super agréable. N'hésitez pas à lire les albums précédents, hein. Oh Mermaid Prince, My Mermaid Prince et Our Summer Holiday, qui sont vraiment des choses très agréables. C'est chez le même éditeur. Et du coup, j'en profite pour redonner les références. Il s'agit de Golden Ship de Kaori Ozaki. Et c'est aux éditions Delcourt Tonkam. J'enchaîne avec la suite d'un album que j'avais beaucoup aimé il y a de ça un an. C'était celui de Kid Noise qui s'appelait, je ne sais plus le nom du premier album. C'est l'adaptation de l'univers d'un DJ en bande dessinée. Un univers où ce DJ se grime avec une tête de singe. Et on a vraiment un truc hyper, hyper sympathique qui fonctionnait bien sous le dessin d'un jeune dessinateur qui s'appelle Otokto. Et c'était vraiment agréable. En fait, on suit cette espèce d'homme à tête de singe qui va livrer des boîtes, et dans ces boîtes il est censé y avoir des éléments qui vont changer le destin d'une personne. Et il faut savoir que ces boîtes, il y a certains niveaux qui font qu'on va pouvoir les donner ou pas à d'autres personnes. Non, j'ai mal résumé. Ces boîtes, il y a certains niveaux de difficulté afin de pouvoir la remettre à une personne en particulier. Dans le premier tome, on voyait vraiment toute cette structure, toute cette hiérarchie livraison de boîtes. C'est une espèce d'univers à part. Et par une espèce de portail, les livreurs vont pouvoir aller donner leur boîte à la personne à qui c'est destiné. Et Kid Noise, le héros de la série, il a envie d'aller un petit peu en vacances et il décide de prendre la boîte d'une de ses collègues, puisque la destination de la boîte, c'est une île tropicale. Et il se dit, tiens, c'est cool, moi je vais pouvoir aller vraiment glander. Et non, c'était pas vraiment prévu comme ça. Il va pas vraiment pouvoir glander, puisque l'île en question, on va dire, n'est pas très bien famée et sous la coupe de personnes peu recommandables. Et du coup, lui, il y va avec sa candeur et il va vivre quelques aventures de manière assez assez troublante. On a un changement de scénariste dans cet album, avec l'arrivée de Lapus qui a fait de mémoire Putain de chat aux éditions Monsieur Popcorn, qui là propose un nouveau scénario. Clairement, on sent pas vraiment la grosse différence. Le scénario se tient bien. On sent qu'il y a une trame scénaristique qui a été posée par Kit Toussaint sur le premier album et qui fait que ça fonctionne bien. Il y a une continuité. Le dessin est continué par Otokto toujours, et du coup, ça marche très très bien avec ses couleurs pop colorées et toutes ces références aux années 80 qui fonctionnent vraiment très très bien. Alors, je sais pas comment fonctionne Kid Noise dessus, puisqu'il est crédité, donc je sais pas s'il a juste donné son feu vert sur l'univers et s'il regarde ou pas. Et vraiment, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est vraiment une belle surprise. Moi, j'en demandais pas autant, j'avais juste envie de passer un bon moment, et c'est exactement ce qu'on me donne, avec des petites réflexions, des petites pistes. Il y a à mon avis quelque chose qui va se passer derrière. Il y a une espèce de fil rouge qui fonctionne, qui a été mis en place depuis le premier album, et qui va vraiment donner envie de suivre par la suite. Et du coup, ça marche plutôt bien. Il faut y aller. Je redonne les références. C'est Kid Noise, tome 2, Le pouvoir des rêves. C'est aux éditions Dupuis. C'est signé, dessiné par Otokto, Kid Noise et Lapus. Et pour finir, j'aimerais vous parler d'un album qui remonte à l'année dernière, fin de l'été dernier. Un album qui est resté très longtemps sur ma pile à lire que j'ai fini par aborder. Alors, le fait qu'ils sont restés sur ma pile à lire, c'est à la fois un bon signe et un mauvais signe, puisque cette pile à lire, je la purge régulièrement de choses que je ne vais pas lire. Alors, c'est rare quand même que j'enlève des choses, mais le fait qu'il y reste aussi longtemps fait que il y avait quand même quelque chose qui me donnait envie, en même temps quelque chose qui fait que je n'arrivais pas à m'y atteler. Cet album, il s'agit de Ravel, un imaginaire musical, et c'est un album qui a été écrit par Guillaume Métayer et dessiné par Alexis Cavaillez, et supervisé ou aidé à l'écriture par Carole Beffa, qui est un pianiste qui a quand même à son compteur 2 victoires de la musique, donc quelqu'un qui connaît un petit peu ce qu'est Ravel et toute l'incidence qu'il a pu avoir sur la musique classique. Ravel n'était pas juste un compositeur de piano, c'était quelqu'un qui était un compositeur de morceaux musicaux. Il était capable de présenter soit des choses construites pour beaucoup d'instruments, soit uniquement des morceaux beaucoup plus fins. Et moi, je vous avoue qu'hormis le boléro que je connaissais, je ne connaissais que très peu de choses de Ravel, et c'était l'occasion de découvrir cet instrumentiste, je dirais, plutôt que compositeur, dans le détail, dans sa vie, et c'est vraiment une très très bonne surprise. Pourquoi ce livre est resté aussi longtemps dans ma pile à lire? Eh bien, simplement parce que la couverture, on le sait, hein, on va chercher un livre parce qu'il nous plaît, parce qu'il nous attire visuellement à la base. Et bien cette couverture, moi, elle me rebutait un petit peu, puisqu'on a une couleur un petit peu, elle me fait penser aux oranges des gâteaux Chamonix, là. Je ne sponsorise rien du tout, et c'est un gâteau que j'aime pas du tout, et qui du coup ne m'attirait pas. Je voyais cette couverture, j'avais le goût du Chamonix, et du coup je fais oh. Bon, ça, ce n'est que moi, mais vraiment, on était sur quelque chose d'un album un petit peu austère. On avait cette espèce de grand bandeau rouge avec marqué le génie de Ravel raconté par Carole Beffa avec Jaime Taillé et Cavaillez. Et déjà, quand on essaie de me vendre, de me survendre un bouquin avec un gros bandeau dessus, je vous avoue que moi, j'ai pas vraiment envie d'avoir ce genre de choses. Et il y a un moment, je me suis dit, bon, allez, on s'y met, on va voir ce que ça va donner. Et là, la surprise a été énorme, vraiment, vraiment énorme, puisque je me suis laissé emporter par cette histoire, par cette biographie romancée, et par tout ce qu'il s'en dégage. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on nous parle de beaucoup de choses, on nous parle de compositeurs que je ne connaissais pas, de morceaux de musique que je ne connaissais pas, de personnages que je ne connaissais pas. Vous avez sans doute pensé que je suis inculte, mais là je pense qu'on s'adresse à la base avec cet album à des gens qui sont un petit peu connaisseurs de ces auteurs, de cette musique, et on a un album qui est un peu déstructuré. On n'a pas une création en cases, c'est pas vraiment une bande dessinée au sens propre du terme. On a vraiment quelque chose de déstructuré, et ça fonctionne vraiment très très bien, puisque on a une espèce d'élan, on a une espèce de mélodie qui se dégage, on a une espèce d'harmonie, on a vraiment l'impression qu'on nous donne du mouvement musical, qu'on écoute un morceau, qu'on écoute une biographie, et que ça vraiment, on s'entraîne de mélodie en mélodie, on passe d'un refrain à un autre, d'un morceau de vie de Ravel à un autre, et ça marche vraiment du feu de Dieu. Je me suis laissé emporter. Il y a un rythme qui est très efficace, il y a vraiment des choses, il y a des moments où on se retrouve à se dire mince, c'est très sombre, et puis des moments oniriques qui vraiment nous emportent et qui font que ça marche très très bien. Le dessin arrive à nous faire entendre la musique, les paroles et les mots qui sont dans cette histoire, et vraiment c'est quelque chose d'assez impressionnant. Je vous avoue que moi je lis toujours les postfaces, les préfaces, les choses qui aident à la construction de l'album, et je vous avoue que j'ai eu une énorme découverte à la fin, puisque j'ai appris que Alexis Cavaillez, le dessinateur du livre, est à la base sourd de naissance, et du coup il dessine de la musique. Vous imaginez un petit peu le contraste, moi qui ai lu un album qui ne m'attirait pas à l'origine, un album où les couleurs sont assez sombres, où vraiment on a un trait qui est assez peu conventionnel, et puis là on me dit que la personne qui a réussi à me faire croire qu'il y avait de la musique, de l'harmonie et à m'emmener dans cet album. En fait, c'est une personne qui n'entend pas la musique, qui ne l'entend pas, alors je pense comme moi je l'entends, qui a certainement un ressenti. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a énormément bluffé d'arriver à mettre un rythme dans cette BD, d'arriver à mettre autant de vie et d'élan, alors que la personne qui l'écrit n'a sans doute jamais entendu la musique dont il parle de la manière dont la plupart des gens l'entendent. Et c'est vraiment un album qui, à ce sens, a été extrêmement bluffant, surtout de le découvrir a posteriori, puisque c'est vraiment très très intéressant. Je vous redonne les références, il s'agit de Ravel, un imaginaire musical, c'est d'Alexis Cavaillès, hein, dessiné par Alexis Cavaillès, scénarisé par Guillaume Métayer et scénarisé par Carole Beffa, double victoire de la musique, ce qui n'est pas rien. Et c'est aux éditions Seuil Delcourt, et c'est vraiment une très très bonne surprise, comme quoi, hein, parfois, si vous avez des survivants dans vos piles à lire, ben, n'hésitez pas à les puiser dans ceux qui sont là depuis un moment, vous aurez sans doute de belles surprises.
That's all, folks.
Vous l'avez entendu, c'est Porky. Il est quasiment l'heure de nous quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'est la dernière émission de la saison. On va pouvoir se retrouver l'année prochaine, en début d'année, en septembre, pour une nouvelle case de Seb qui va avoir un nouveau format. Sans doute de nouvelles choses à dire. On continue, hein, bien sûr. Et puis on essaiera de voir ce qu'il en découle. J'espère que vous avez passé une saison 2019-2020 en notre compagnie de très bon augure. J'espère que vous avez passé, malgré les différents éléments un peu étranges qui ont pu parsemer cette année, et j'espère que ça vous a plu et que vous serez au rendez-vous l'année prochaine. En tout cas, moi j'y serai, je compte sur vous, et on se retrouve sur le 101.5 de Radio G en septembre. Je vous souhaite un bon été, surtout n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent. À ciao.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.